comprehensionis. C'est le statum comprehensionis qui libère l'âme de la servitude de l'image. Vous voyez, ça, alors c'est très très net, on voit bien son argumentation. Son argumentation, c'est bien ce point de vue du status. C'est par le point de vue du status qu'il montre cette libération. Alors, on commence mieux à comprendre, hein, j'espère. Parce que ça, c'est très important. Alors, troisième objection. Les sens ont été donnés à l'homme pour servir son intelligence. Mais si l'âme du Christ pouvait faire acte d'intelligence sans avoir recours aux images, étant donné que les images nous viennent des sens, il s'ensuivrait que les sens ne seraient d'aucune utilité pour elle, ce qui est difficile à admettre. Il semble donc que l'âme du Christ n'a pas pu exercer son intelligence sans faire appel aux images. Réponse. L'âme du Christ pouvait faire acte d'intelligence sans recourir aux images, mais elle pouvait tout aussi bien y faire appel. Les sens ne lui étaient donc pas inutiles, d'autant moins que les sens sont donnés à l'homme non seulement pour sa connaissance intellectuelle, mais aussi pour sa vie animale. Ah, ça c'est bien, ça te rappelle le réalisme. Quand vous êtes au réfectoire, vous avez besoin de vos sens pour sentir si la soupe est bonne, si elle est brûlée. C'est quand même important, ça. Vous avez besoin de vos sens pour manger, parce que vous mangez comme un animal intelligent et qui sent. Et c'est vrai, si on est privé du goût, si on est privé de l'odorat, il y a quelque chose qui va moins bien. C'est toute l'ascèse. Alors, est-ce que l'ascèse consiste à manger toutes choses de la même manière? Ça ne serait pas très d'accord, vous voyez. C'est intéressant de voir ça. Hein, c'est par ces petites remarques comme ça qu'on saisit le réalisme de saint Thomas. Hein, ça, c'est des petites remarques très simples. Allez, soyez ascétique jusqu'au bout, bouchez-vous le nez pendant tout le repas, fermez les yeux pendant tout le repas, et puis mettez-vous dans, je ne sais pas, dans une condition de prendre du savon dans la bouche pendant, avant le savon, pour que tout ait le goût du savon. Ah, vous serez ascétique. Et votre amour pour Dieu augmentera d'autant plus. Le savon sera plus présent. Bien non, Saint-Thomas, c'est pas ça la sève. C'est pas dévoyer les sens. C'est les purifier en leur permettant. La sève, c'est arrêter toute jouissance qui nous ferait nous arrêter. Les soldats de Gédéon qui lapent l'eau. Ils ont trouvé que l'eau était encore plus bonne parce qu'ils l'ont lapée. Ils ne se sont pas arrêtés. Alors ça, c'est ça. C'est une question, vous voyez, c'est ça la cèse. C'est une question de ne pas s'arrêter aux intermédiaires, aux finalités intermédiaires. On reconnaît le bien sensible, mais on le dépasse tout de suite. Et on s'en sert pour aller plus loin. Alors vous voyez qu'ici, saint Thomas montre bien là encore, le recours aux images n'était pas nécessaire à cause de son status naturel, de cet état de compréhension. Alors, c'est curieux, hein, c'est très intéressant à voir. L'exigence de l'image par rapport à notre connaissance, l'exigence de l'image par rapport à notre connaissance intellectuelle, n'est pas un principe propre. C'est une condition sine qua non qui vient de l'exercice. Ce qui fait que l'argumentation de saint Thomas ne peut pas partir d'un principe propre, mais ne peut partir que du conditionnement. Ce qui légitime l'argumentation de saint Thomas. Et c'est pour ça qu'on est gêné. Parce qu'au fond, c'est une argumentation qui n'est pas du tout comme les argumentations habituelles par le point de vue de l'objet propre et ce qui spécifie, c'est une argumentation qui se prend par rapport au sujet, exactement comme des argumentations dans la phénoménologie d'aujourd'hui. On ne regarde que le sujet. On ne regarde que la subjectivité transcendantale dans laquelle saint Thomas, dans laquelle Jésus se trouve là, se trouvait grâce à sa vision des images. Il y avait une subjectivité transcendantale, il était libéré de tout. Et étant libéré de tout, il pouvait donc exercer son intelligence d'une façon nouvelle. Oui. Il faut se demander si la philosophie de Kant permettrait de montrer ça dans la subjectivité transcendantale. Il est dans un état dans lequel, de fait, son intelligence est libérée de cette servitude des sens, à cause de la vision béatifique. Alors, voyez bien, je réponds à la réponse du rayonnement de la vision béatifique. Ce n'est pas le rayonnement, c'est par rapport au sujet. Donc, l'exercice. La vision béatifique donne un nouvel exercice, une nouvelle possibilité d'exercice, parce qu'elle libère le sujet connaissant. C'est très très beau ça, du reste. Cette science était-elle discursive? Vous voyez, ça c'est intéressant. On a vu la question de l'image et la vision. C'est tout l'aspect critique qui est là présent. Hein. L'aspect critique du statut dans lequel nous pouvons connaître. Le Christ, nous le savons, a possédé une âme rationnelle. Mais le propre de l'âme rationnelle est d'inférer et de discourir d'une chose à une autre. Il y a donc eu dans le Christ une science discursive comportant le raisonnement. Une science peut être discursive d'une double manière. Premièrement, sous le rapport de son acquisition. Procédé qui consiste à connaître une chose par le moyen d'une autre chose, comme par exemple les effets par les causes, ou inversement. En ce sens, la science du Christ ne fut pas discursive. Car cette science dont nous parlons ne fut pas acquise par investigation rationnelle, pas de travail, mais divinement infuse. Donc elle n'est pas acquise par démonstration. Pour Aristote, vous savez bien, la science est acquise par démonstration. Donc, par un travail qui relève justement du point de vue de la démonstration. Il faut démontrer pour acquérir la science. Puisque la science du Christ est acquise par infusion, science infuse, elle n'est pas acquise par démonstration. Donc, ce n'est pas une science discursive. Du côté de l'acquisition. En second lieu, une science peut être dite discursive dans l'usage que l'on en fait. Ainsi, parfois, les savants déduisent les effets des causes non pas pour les réapprendre, mais pour faire usage d'une science qu'ils possèdent déjà. En ce cas, en ce sens-là, la science du Christ pouvait être discursive, pouvait. Car il pouvait, comme il lui plaisait, conclure une chose à partir d'une autre. C'est ainsi que, selon saint Matthieu, ayant demandé un jour à Pierre de qui les rois de la terre perçoivent le tribut, de leurs fils ou des étrangers, et Pierre ayant répondu des étrangers, le Christ conclut, donc les fils en sont exempts. Merveille. Ah, c'est bien. Très bonne exégèse. Quand vous dites « ergo liberi sum fili ». Le raisonnement avec Nicodème. Moi, j'aurais pris le raisonnement avec Nicodème. Parce que c'est vraiment là, Jésus montre. Hein, la distinction, il fait une distinction et puis il fait un raisonnement. Donc, vous voyez, c'est très curieux et c'est très intéressant parce que ça situe exactement la différence entre l'exigence de l'image et le point de vue d'une connaissance discursive. L'exigence de l'image, condition sine qua non, qui vient de la condition de l'homme. C'est parce que l'âme est liée au corps que nous sommes obligés de passer par les images et que nous sommes obligés d'utiliser des images parce que l'âme est unie au corps. Parce qu'il y a abstraction, il y a raisonnement. Parce que qui dit connaissance par abstraction dit connaissance partielle. Et il y a raisonnement parce qu'il y a connaissance partielle. Si vous aviez une connaissance intuitive, vous n'auriez pas besoin de raisonner. Enfin, j'en ai l'intuition. Donc, je raisonne droit. Dès que vous comprenez que toute intuition risque d'être fausse et imaginative, c'est-à-dire d'anticiper une synthèse trop rapidement, n'est-ce pas ? Les esprits intuitifs connaissent ça très bien. Et ça ne veut pas dire que de temps en temps, ce n'est pas très vrai. Mais ça demande d'être analysé. Or, on analyse parce que justement, on a une connaissance partielle. Toute connaissance abstractive est partielle. Parce que toute connaissance abstractive est partielle, elle a besoin d'être complétée par un raisonnement. Et l'aspect de du discours, c'est complété. Vous voyez, ça fait comprendre ce que c'est que la dialectique. La dialectique veut faire une synthèse de parties. Mais la dialectique ne reconnaît pas l'abstraction. C'est ça. La contradiction qui existe à l'intérieur du système italien. Qui dit synthèse, dit partie. Qui dit partie, dit abstraction. Or, on veut faire une synthèse sans abstraction. Et c'est pour ça qu'au fond, c'est toujours intuitif. Et je crois que c'est ce qui existe dans toute image dialectique, c'est qu'au fond, on n'accepte pas. Et donc, on n'accepte pas vraiment la même. Et on veut tout de suite arriver à la synthèse. Alors que le raisonnement reconnaît l'abstraction et essaie d'unir ces diverses parties pour avancer. Et on avance, non pas en faisant une synthèse, mais en concluant. Alors, la conclusion n'est pas une synthèse. C'est pas la même chose. C'est une sorte de synthèse, c'est une conclusion. Mais la conclusion reste partielle. Elle n'est pas le tout. Et on accepte que c'est quelque chose de partiel. Or, le raisonnement est lié à notre conditionnement de connaître. Donc, le raisonnement est plus essentiel à notre vie intellectuelle que l'image ne l'est à notre vie intellectuelle. Et c'est ce qui explique ces deux questions qui sont très intéressantes et qui demanderaient d'être très étudiées au point de vue critique. Si on veut voir la différence qui existe entre la dépendance de notre intelligence par rapport à l'image et la dépendance de notre intelligence par rapport au raisonnement, c'est extrêmement intéressant, ces deux articles. Parce que notre dépendance à l'égard des images n'est qu'un aspect d'une condition sine qua non. L'exercice se passe de cette manière-là, donc ça peut se passer. Tandis que le point de vue du raisonnement est beaucoup plus lié à notre manière de connaître. C'est plus intrinsèque. Des deux côtés, c'est le sujet. Alors voyons tout de suite ici la dernière objection. L'âme du Christ a possédé la science à la manière des bienheureux, qui sont assimilés aux anges, ainsi qu'il est dit dans saint Matthieu. Mais les anges n'ont pas de science discursive. Il en fut donc de même du Christ. Les bienheureux sont assimilés aux anges sous le rapport des dons de la grâce. Mais la différence demeure du point de vue de leur nature. C'est pourquoi l'usage du raisonnement est comme naturel aux âmes bienheureuses, tandis qu'il ne l'est pas aux anges. Article 4, la science infuse du Christ fut-elle supérieure à celle des anges ? Alors, tout de suite, cette contrainte. L'apôtre écrit aux Hébreux, abaissé un moment au-dessous des anges, il a reçu une couronne de gloire et d'honneur en retour de la mort qu'il a souffert. D'où il ressort que c'est en raison de sa mort seule que le Christ a été abaissé au-dessous des anges et non en raison de sa science. Alors le corps de l'article, la science infuse de l'âme du Christ peut être envisagée à un double point de vue. Premièrement, par rapport à la cause qu'il a produite. Deuxièmement, par rapport au sujet qu'il a reçoit. Sous le premier point de vue, la science du Christ fut plus excellente que celle des anges, soit en ce qui regarde le nombre des objets connus, soit en ce qui regarde la certitude de la connaissance. Car la lumière surnaturelle communiquée à l'âme de Jésus est beaucoup plus parfaite que celle qui se rapporte à la nature angélique. Sous le second point de vue, la science de l'âme du Christ est inférieure à la science angélique, car le mode de connaissance naturelle à l'âme humaine implique le recours aux images et le raisonnement. Filichet est per conversionem ad fantasmata et per collationem et discursum. Vous voyez que si on était tout à fait précis, parce qu'il vient de dire l'inverse. Hein. Alors, si on était tout à fait précis, on devrait dire tout simplement, c'est que ad modum cognoscendi, c'est très juste, qui est naturalis humane naturae, animé naturé, qui Filichet est père. Alors, vous voyez que cette inférence regarde le point de vue du modus cognoscendi. Alors, ce modus cognoscendi est en partie libéré par le status du bienheureux. Alors, on devrait dire, cette connaissance peut se servir, mais elle n'est pas liée à ça. À l'égard du modus cognoscendi, c'est évident que c'est inférieur. Vous avez tous compris ? Vous pouvez y aller ? Oui, parce que si je prends un peu matériellement, n'est-ce pas ? Ils viennent dire que la science infuse n'a pas besoin d'image et peut se libérer du raisonnement. Ben oui. Il a dit à l'article précédent. Alors ici, il dit, sous le second point de vue, la science de l'âme du Christ est inférieure aux anges angéliques, car le mode de connaissance naturel à l'âme humaine implique le recours aux images et le raisonnement. Mais matériellement, c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire si je comprends bien ce qu'on veut dire certainement. Mais c'est un peu rapide. Hein. Si je comprends bien, je vois bien ce qu'il veut dire. C'est que le mode humain de connaître n'est pas supprimé. La connaissance infuse ne supprime pas ce mode humain. Mais la science infuse du Christ, en raison même de son status de bienheureux, son état de bienheureux, est supérieur à ce mode humain. Il peut s'en servir ou pas s'en servir. Alors, cette science est-elle à l'état d'habitude? La science du Christ dont nous parlons fut univoquement semblable à la nôtre. Univoca fuciensi natura. Nostre. Univoca. Nous aurions dit analogiquement. Tout aussi bien que son âme fut de même nature que la nôtre. Or, notre science appartient au genre de l'habitus. C'est donc que la science du Christ fut aussi à l'état d'habitus. Alors, le raisonnement de Saint-Thomas. Comme nous l'avons déjà dit, le mode de cette science infuse était en rapport de convenance avec le sujet. Mais soulignons bien ça, parce que c'est cela qui est la ligne de force de toute cette question, hein. Comme nous l'avons déjà dit, le mode de cette science, modus uius scientiae, indite, était en rapport de convenance. Convenience, rapport de convenance, était en rapport de convenience avec le sujet auquel elle était communiquée. Ce qui est reçu dans un sujet, en effet, se plie à la manière d'être de ce sujet. Or, il est connaturel à l'âme humaine d'être intelligente tantôt en acte, tantôt en puissance. Il faut prendre le bon moment. Quand je vous interroge, quand vous êtes tantôt en puissance, ça ne sort pas. C'est tantôt en acte pour les examens, ça va. Vous voyez, c'est une excellente réponse aux examens. Ah, excusez-moi, je suis en puissance maintenant. Parce que c'est le propre. Il est naturel d'être intelligente tantôt en acte, tantôt en puissance. C'est merveilleux, venez. Quand on vous donne un ordre, le supérieur vous donne un ordre, le supérieur vous dit un ordre, je suis en puissance. Attendez que je sois en acte. Tantôt en puissance, tantôt en acte. C'est très très joli. D'autre part, et c'est rigoureusement vrai, d'autre part, l'habitus est intermédiaire entre la pure puissance et l'acte complet. Et comme l'intermédiaire appartient au même genre que les extrêmes, vous avez la mélasse qui va se faire. Comme de fait, l'intermédiaire appartient au même genre que les deux extrêmes, c'est comme la synthèse de deux extrêmes, il est donc comme naturel à l'âme humaine de recevoir la science par mode d'habitus. D'où l'on doit conclure que la science infuse du Christ était à l'état d'habitus et qu'il pouvait en faire usage quand il le voulait. C'est extrêmement curieux ce raisonnement de la science infuse. Toujours le point de vue du sujet. Toujours le conditionnement du sujet. C'est très très rare que saint Thomas raisonne comme ça. C'est très très rare. Je comprends que ça déroute complètement. Ceux qui sont habitués à un point de vue logique, ils disent ça colle pas du tout. Tout est un peu faux. Alors, regardons la réponse aux objections. Nous avons dit que l'âme du Christ convenait, donc qu'à l'âme du Christ convenait une science souverainement parfaite. Mais il est plus parfait pour une science d'exister en acte que d'exister à l'état d'habitus. Il convenait donc, semble-t-il, que le Christ connût toute chose actuellement et non pas seulement d'une manière habituelle. C'est sûr, ça. C'est plus parfait d'être toujours en acte que d'être de temps en temps en acte, de temps en temps en état virtuel. Alors, réponse. Dans l'âme du Christ, il y eut une double connaissance. Et l'une et l'autre étaient très parfaites en son genre. La première dépassait le mode de la nature humaine et faisait voir au Christ l'essence divine. Et en elle, toutes les autres choses, ce fut une connaissance absolument parfaite. Elle n'était pas à l'état d'habitus, mais donnait la connaissance actuelle de tous ces objets. La seconde connaissance se trouvait dans le Christ sous un mode proportionné à la nature humaine. Proportionné à la nature humaine et en même temps dépassant la nature humaine, puisque ce n'est pas le point de vue de la puissance par rapport à la taille de ta jambe, mais par rapport. Vous voyez comme c'est délicat. Hein, et il résonne de temps en temps de façon différente. La seconde connaissance se trouvait dans le Christ sous un mode proportionné à la nature humaine. Elle lui faisait connaître les réalités par des formes intelligibles divinement infuses. Cette connaissance dont il s'agit ici ne fut pas absolument parfaite, mais elle fut très parfaite dans son genre de connaissance humaine. Et c'est pourquoi il n'était pas requis qu'elle fût toujours en acte. La science de la vision béatifique est toujours en acte, c'est bien évident. C'est le rapt divin. Mais la science infuse, qui d'une certaine manière, respecte le mode humain. Alors, de temps en temps, elle le respecte, de temps en temps, elle ne le respecte pas. Il y a un laissez-passer de temps en temps. Alors, de temps en temps, elle le respecte, de temps en temps, elle ne le respecte pas. Elle ne le respecte pas pour l'image, pour la connaissance discursive, elle le respecte pour l'habitus. Pourquoi ? C'est ce qu'il faut se poser, j'espère bien. Vous voyez bien le raisonnement qu'il donne. De temps en temps, on fait appel au mode humain, de temps en temps, on fait appel au mode bienheureux. et on joue sur les deux claviers. De temps en temps, on fait appel au statut du bienheureux. Il est dans un état de bienheureux. Parce qu'il est dans un état de bienheureux, cette science infuse est libre par rapport aux images. Elle est libre par rapport aux images. Mais cette science infuse est aussi dépendante du mode humain. Et donc, elle est un but. Donc, vous voyez, de temps en temps, je fais appel à l'état bienheureux du Christ. De temps en temps, je fais appel à la condition humaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me légitime de faire appel de temps en temps à l'état des autres et de temps en temps à la condition de cette femme? Vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre. Parce que si vous continuez la petite sauce, vous raterez. De temps en temps, vous ferez appel à l'état bienheureux, de temps en temps à la condition humaine, et ce sera juste à côté. Et ce qui est génial chez saint Thomas, c'est qu'il retombe toujours sur ses pieds. Et c'est dit exactement, c'est là où il fait appel exactement à l'état bienheureux et d'autres à la condition humaine, il le fait juste. Alors pourquoi, réfléchissez, je vous pose la question, et si quelqu'un peut répondre, qui répond, pourquoi quand il s'agit de la dépendance à l'égard des images, quand il s'agit de la dépendance du mode discursif, pourquoi fait-il appel au statut bienheureux dans laquelle se trouve Jésus? Et comment, quand il s'agit de l'habitus, il fait appel à la condition humaine?
Saint Thomas dit bien que la science infuse du Christ peut se passer les images, mais pas forcément. Non, mais est-ce que sur le pas la raison,
elle ne peut pas se passer les images?
Oui, ça c'est certain.
C'est ça que je pose la question, c'est là. Mais donc vous ne répondez pas à côté, vous ne répondez pas directement.
Si, non, parce que Saint Thomas disait auparavant que le Christ pouvait servir de sa science infuse pour les besoins de sa mission. Si la mission requiert une connaissance qui dépasse les images, les fantasmes, donc directement infuse, et bien il en fait usage.
C'est ça la question, vous voyez la question de la finalité. Je suis tout à fait d'accord que la science infuse est donnée pour qu'il puisse exercer cette fonction. Mais j'essaie, dans l'analyse qu'il prend ici, comment se fait-il que de temps en temps, il fait appel à l'état bienheureux qui me libère de certains conditionnements de la science humaine? Et comment, dans d'autres aspects, d'habitude, il fait appel à la condition humaine? Alors je voudrais savoir pourquoi. Formellement, ça parle pas à la finalité. C'est le point de vue, l'argumentation. La cause propre.
Pour tout ce qui relève de la détermination et des spécifications, ça relève de l'intellect possible. Et tout ce qui relève de la cause efficiente et de la condition de la science, ça relève de l'intellect, de l'agent.
De l'état.
Or, l'agent est soit un agent naturel, soit un agent surnaturel. Donc dans la mesure où l'agent surnaturel permet de télescoper tout l'aspect de l'acquisition de la science, là il fait appel à la vision, à l'état bienheureux.
À l'état bienheureux. L'état, c'est toujours du côté de l'exercice. Quand on fait appel au status, c'est toujours du côté de l'exercice. Mais l'habitus fait aussi appel à l'exercice.
En tant qu'il est en acte. Mais en tant qu'il est justement habitus, il est dans l'ordre de la détermination. Et donc il relève du mode.
C'est la cause formelle.
Voilà, la cause formelle, l'intellect possible.
Oui. Ah, l'intellect possible. Non, je ne dirais pas l'intellect possible, c'est du côté, beaucoup plus du côté, alors, non pas.
Oui, ce qui actue.
Oui, c'est ça, ce qui actue.
Ce qui actue, donc oui, c'est ça.
Oui, c'est pas l'intellect. Oui, ça respecte le mode propre parce qu'on est du côté de la cause formelle. Tandis que de l'autre côté, on est du côté de l'exercice. Quelles sont les conditions d'exercice d'un acte de science? Les conditions d'exercice d'un acte de science, pour moi, font appel à l'image, font appel au discursus. Pour le Christ, étant donné son état de bienheureux, il est au-delà de cette dépendance. Quand il s'agit d'habitus, l'existence d'un habitus ou l'existence d'être toujours en acte ne fait pas ici appel directement à la question de l'exercice. Ça fait appel à l'actuation. C'est pour ça qu'il commence, du reste, deux manières d'être en acte. On est en acte quand on est dans l'opération elle-même. On est en acte par l'habitus qui vient déterminer la puissance. Donc, ce n'est plus le même raisonnement. C'est la question de la détermination. acte premier, acte second. Or, acte premier, acte second n'est pas télescopé par le status du bienheureux. Parce que ceci regarde la potentialité radicale de l'intelligence. Mon intelligence est en potentialité radicale, c'est ça la condition, tabula rasa. Et donc, parce qu'il est en puissance radicale, il exige de ne pas d'avoir cet habitus parce qu'il n'est pas toujours en acte.
Oui. Ça prend la distinction ratio entre les tous.
Non. Ah oui, oui. Oui, vous pourriez peut-être dire ça aussi. C'est évident que la question de l'habitus regarde l'intellectus et non pas la ratio. Tandis que l'autre, c'est le point de vue de la ratio. Alors, la ratio regarde beaucoup plus, c'est l'exercice, la ratio. C'est pour ça que ça revient au même. C'est l'exercice. Tandis que l'intellectus, c'est la détermination.
Ça montrait que le Christ respecte ce qu'il y a de spirituel, quoi. Respecte l'intellectus, l'exercice propre de l'intellectus et de la ratio, à cause de son état bienheureux.
Il est libéré.
Oui,
il est libéré de tout ce que représente la ratio. Et le point de vue de l'intellectus demeure le même en raison qu'il est homme, de sa nature humaine, des principes propres. Autrement dit, l'intellectus, vous voyez, l'intellectus comme tel fait partie de la nature humaine. La ratio fait partie d'un conditionnement de la nature humaine qui peut être dépassé en raison de son status. Oui, ça revient au même, c'est les deux raisonnements siennes. Oui.
Aspects du conditionnement qui implique une imperfection et d'autres non.
Et est-ce que c'est pas imparfait d'avoir un habitus, c'est pas toujours en acte?
Oui, mais il est nécessaire qu'il y ait possibilité d'acte.
Oui, je disais, donc, c'est parce que ça, c'est une infirmité, c'est la condition. Je crois que c'est plus la condition de la créature. D'un côté, c'est la condition d'une nature, du marbre lié au corps, et de l'autre côté, c'est la condition de la créature. La créature n'est pas toujours en acte. Donc c'est plus radical comme imperfection. Plus radical. Oui.
La science accuse au cas des choses futures, des singuliers futurs. Est-ce qu'il ne faut pas alors ajouter des fantasmes à fuir?
Non. Il est libre de faire ses fantasmes.
Si les singuliers sont des êtres matériels, physiques.
Oui. Ah, il est libre.
Non,
il ne les connaît pas. Il les connaît sur un mode divin, par les formes infuses. C'est Dieu qui lui infuse ses formes intelligibles. Vous voyez, comme les prophètes peuvent avoir, il y a à l'intérieur de la prophétie, une prophétie intellectuelle, une prophétie imaginative. Vous voyez,
on ne peut pas faire la même chose pour la prophétie.
Oui, on peut le faire aussi, c'est possible. C'est possible que, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas nécessaire, puisqu'il n'a pas besoin de cela. Mais c'est possible. Ce serait plus carré. Mais la science infuse, au fond, est-ce que la science infuse est au niveau charismatique ou au niveau pas charismatique? C'est la dernière question qu'il faudra se poser. Bon, alors, voyons tout de suite, cette science comprend-elle plusieurs habitus? C'est pour terminer la question. Nous lisons dans Zacharie que sur une pierre unique, c'est-à-dire sur le Christ, il y a sept lieux. Très bonne exégèse. Hein? Or, par l'œil, il faut entendre ici la science, il semble donc qu'il y ait dans le Christ plusieurs habitus de science. Ça, elle est excellente, celle-là. C'est merveilleux. Dans Zacharie, regardez bien le prophète Zacharie 3, 9. N'est-ce pas? Et vous verrez que dans le prophète Zacharie, est inscrit que dans le Christ, il y avait plusieurs habitudes de science. La métaxie de ce qui nous est montré ici. N'est-ce pas? Je reprends. Nous lisons dans Zacharie que sur une pierre unique, c'est-à-dire le Christ, il y a sept lieux. Or, par l'œil, il faut entendre ici la science, il semble donc qu'il y ait dans le Christ plusieurs habitudes de science. Alors, je comprends qu'un exégète contemporain dans ça, il rugit. Parce qu'il oublie que, de fait, il y a une exégèse métaphorique n'est-ce pas, qui peut donner ce langage. Évidemment, ce n'est pas scientifique, hein, ça sûrement. Mais c'est une pratique que Saint Thomas suit. Ainsi que nous l'avons dit, la science infuse se trouvait dans l'âme du Christ, sous un mode comme naturel à l'âme humaine. C'est ça qu'il faut bien saisir, puisque c'est ça qui permet de lire l'habitus. Sous un mode comme naturel à l'âme humaine. Con naturale animé humane, ut recipiat species. Or, ce qui est con naturel à l'âme humaine, c'est de recevoir des formes intelligibles moins universelles que celles des anges. De là vient qu'en nous, il y a autant d'habitus de science que de genres d'objets à connaître. Tout ce qui appartient à un même genre se trouvant connu par le même habitus scientifique. C'est pourquoi nous lisons dans les postérieurs analytiques que l'unité de science tient à l'unité générique du sujet. La science infuse de l'âme du Christ comprenait donc plusieurs habitus. Voyons tout de suite la réponse aux objections. Il semble qu'il y ait dans l'âme du Christ qu'un habitus de science. Plus la science est parfaite, en effet, plus elle est unifiée. De là vient que les anges supérieurs connaissent par des formes plus universelles, ainsi qu'il a été dit dans la première partie. Mais la science du Christ fut très parfaite, elle fut donc très une, et ne se divise pas en plusieurs habitus. Comme nous l'avons dit plus haut, la science du Christ est très parfaite et surpasse la science des anges, si on la considère du côté de Dieu qui la cause. Mais elle est inférieure à la science angélique en ce qui regarde le mode de réception, réceptivité du sujet, car ce mode suppose qu'elle se distingue en de nombreux habitus, comme en autant de formes intelligibles plus particulières. Alors, la seconde objection, c'est facile à comprendre. La seconde objection, notre foi dérive de la science du Christ. De là, cette parole de l'Épître aux Hébreux, gardons les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais il n'y a qu'un seul habitus de foi pour toutes les vérités à croire, ainsi que nous l'avons dit dans la deuxième partie. Il n'y aurait donc dans le Christ qu'un seul habitus de science. Réponse. Notre foi se fonde sur la vérité première et c'est par sa science divine absolument une que le Christ est l'auteur de notre foi. C'est pas la science infuse. Bien évident. C'est pas la science infuse. La science infuse regarde le gouvernement du Christ et ne regarde pas le Christ en tant qu'il nous engendre et qu'il nous sauve. Alors, dernière objection. Les sciences se distinguent d'après leurs différents objets formels. Mais l'âme du Christ connut toutes les choses sous un seul objet formel, à savoir sous la lumière divinement infuse. Il n'y a donc en lui qu'un seul habitus de science. Réponse. La lumière divinement infuse est le moyen commun que nous avons de connaître ce qui nous est révélé par Dieu. De même que la lumière de l'intellect nous permet communément d'atteindre les objets de notre connaissance naturelle. Aussi devait-il y avoir dans l'âme du Christ des espèces particulières de chaque chose pour qu'il pût en prendre une connaissance propre de la nécessité de placer en lui plusieurs habitudes de science. Il y avait toutes les sciences, tous les habitudes nécessaires pour ça. Avait-il l'habitus de science biologique?
Est-ce que pour saint Thomas, cette science a statut de science?
Non. C'est ça la réponse. C'est une disposition. Tandis qu'il y avait l'habitus philosophique. C'est la supériorité de la philosophie. C'est une encore la supériorité avec l'âme du Christ par rapport au
Saint-Esprit. Je comprends mieux pourquoi il a fait allusion au don du Saint-Esprit
Bon, alors, je reviens à la question initiale, puisque nous avons terminé cette question difficile, hein, très difficile. Ça, elle est très difficile. Ça, il faut le reconnaître, c'est une question difficile. C'est pas commode du tout à bien saisir. C'est à la fois pas assez développé et trop développé. Vous voyez, c'est vrai, on est gêné devant ça. C'est pour ça que c'est intéressant à voir ça. C'est pas commode du tout. Ce n'est pas notre style de pensée habituel. Hein. On ne pense plus du tout comme ça. Alors, je crois, vous voyez, que c'est vraiment ce point de vue-là qui doit nous commander cette question de la science infuse. C'est cet intermédiaire. On est en face de montrer qu'il y a là un trou à combler. Il y a une potentialité. Bon, si je supprime la science infuse du Christ, il demeure dans l'âme du Christ une potentialité. Une potentialité dans son intelligence qui n'est pas actuelle. Et ça est insupportable pour le théologien. Pour le théologien médiéval de Saint-Thomas. Pour le théologien moderne, c'est au contraire merveilleux. Parce que le Christ comme ça est plus proche de nous. Et si le Christ comme ça est plus proche de nous, c'est merveilleux. Alors c'est juste le raisonnement inverse. C'est sûr, mais comme pour la Vierge de Marie. La parole de Mauriac reste toujours, toujours latente. Oh, si elle était pécheresse, elle serait plus proche. Et c'est pour ça que je n'aime pas dire qu'elle est immaculée. Mauriac, notre vipère, c'est pas étonnant. On voit très bien qu'il disait ça. Il dit ça très sérieusement, très saintement, à sa manière, n'est-ce pas, de dire ça. Si elle était, elle serait plus proche. Alors on oublie que c'est la potentialité qui nous sépare. Et c'est l'acte qui nous unit. Dès qu'on est en face d'un saint, les saints se retrouvent toujours. Les pécheurs, pas toujours. Parce que c'est au fond très difficile d'unir des pécheurs. Tandis que les saints s'unissent par le sommet. Plus on est en acte, et en acte d'amour, plus on unifie. Plus on est en puissance, plus il y a source de division. La potentialité comme telle ne divise pas, mais elle est source de division. Tandis que l'acte est source d'unité. De sorte que le raisonnement de saint Thomas, montrer que le Christ, s'il y a une potentialité, cette potentialité demande d'être actuée. Pourquoi ? Parce que le Christ est tête et roi de toute la création. Et donc, il faut qu'il y ait cette actuation dans son âme humaine. L'âme humaine du Christ étant une âme qui a reçu une plénitude de grâce, étant une âme qui est assumée par le Verbe de Dieu, est nécessairement dans un état de perfection absolue. Ça, c'est la grande lumière qui doit tout éclairer. Or, dans l'intellect, dans notre intelligence, dans notre douce, il y a une potentialité radicale. Tabula rasa, il y a une potentialité radicale. Et une potentialité quasi infinie. Puisque l'intelligence est le lieu de toutes les formes intelligibles, intentionnelles. Je crois que c'est ça, elle est le lieu. Parce qu'il y a une capacité en elle à l'égard de toutes ses formes potentielles. Il faut donc essayer de comprendre comment dans l'âme du Christ, cette intelligence est actuée. Elle ne peut pas être actuée selon un mode comme naturel à l'homme. Donc elle ne peut pas être actuée uniquement par le point de vue du pèlerin, parce que ça implique un devenir. Il faut donc qu'elle soit actuée radicalement par l'intelligence divine, la vérité première. Et alors, être actué radicalement par l'intelligence humaine, par l'intelligence divine, c'est la science infuse. Or, cette science infuse doit être à la fois, c'est pour ça qu'elle est médiane, reliée à la vision béatifique, mais reliée à la vision béatifique, non pas dépendante de la vision béatifique, non pas comme propriété, mais reliée à celui qui vit cette vision béatifique. Et relié à cet état de pèlerin. Alors, c'est cette double dépendance, cette double relation qui va être constamment ce que Saint-Thomas va faire. Vous voyez, il le précise. D'habitude, une science se précise par son objet. Ça qui nous intéresse. D'habitude, une science se précise par son objet. Cette science infuse n'est pas précisée par son objet. Parce que je ne sais pas. Je ne peux savoir qu'une seule chose au point de vue théologique, le lien de cette science infuse avec l'état de vision béatifique et l'état de pèlerin. Et c'est pour ça que tout le raisonnement de saint Thomas se prend toujours de la question du status, de la manière d'exister de cette intelligence. Et je crois que c'est ça qui explique ce raisonnement si particulier. C'est pour ça qu'au fond, c'est un raisonnement qui, scientifiquement, se fait du côté de la cause matérielle, du côté du sujet, subjectivité transcendantale. Quand je disais ça, c'est vrai, c'est quelque chose de curieux. C'est ce qu'il veut saisir de cette intelligence du Christ qui étant l'intelligence de quelqu'un qui voit Dieu et de quelqu'un qui demeure pleinement homme. Il faut donc saisir la manière particulière dont se présente à nous cette science infuse, étant donné ce double aspect dans l'âme du Christ. Et je crois que c'est ça qui explique tout le raisonnement de Saint-Thomas.